Donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le défi fixé par la BIPNES du ministère, c'est d'essayer de se centrer sur les réponses que peut apporter l'innovation pédagogique aux grands enjeux. Nous allons démarrer donc cette deuxième journée de ces premières journées nationales de l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur avec Sophie Béjean, qui est depuis le début du mois de mars rectrice de l'Académie de Strasbourg et donc chancelière des universités d'Alsace. Elle est également présidente du comité pour la STRANES, la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur, depuis fin 2014. Elle est également ancienne présidente de l'Université de Bourgogne. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Sophie Béjean.
Bien, bonjour à tous. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour cette deuxième journée de l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur. Je voudrais remercier Marc Guiraud pour ses quelques mots d'introduction, puisqu'effectivement, il a présenté et planté le décor de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et du rapport que j'ai remis avec Bertrand Montubert au président de la République, qui a aussi fait l'objet d'ailleurs d'un débat à l'Assemblée, débat apporté par notre ministre et notre secrétaire d'État. Alors, l'existence, je crois, de CJPES, cher Claude, et des prix qui ont été remis hier, les prix PEPS, s'inscrit, je crois, très directement, en fait, dans les axes stratégiques de la STRANES, comme je crois que cela a été évoqué hier par Thierry Mandon. Ces journées sont aussi, bien évidemment, dans le prolongement des propositions du rapport que Claude Bertrand avait élaboré. Et je voudrais saluer non seulement ce travail, mais tout l'engagement de toute la DGCIP, je crois, aujourd'hui, pour promouvoir les innovations pédagogiques dans l'enseignement supérieur. C'est une action de fond qui est nécessaire et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ces JPES sont aussi l'occasion de montrer que les initiatives, les expériences sont extrêmement nombreuses, très riches, dans les universités et dans les écoles, dans les établissements d'enseignement supérieur. Et nous ne sommes plus aujourd'hui autant des pionniers. Les collègues, les enseignants, chercheurs sont engagés, les présidents, les équipes de direction des universités, des écoles en ont parfois fait un axe central de leur politique et de leur action. Hier, Pascal Olivard, par exemple, parlait de l'expérience de l'université de Bretagne occidentale et de bien d'autres. Les universités et les écoles ont innové et innovent pour mieux accompagner leurs étudiants tout au long de leur parcours. Mais la question que nous pouvons nous poser, si nous ne sommes plus au temps des pionniers, est-ce que pour autant, comme Gilles Roussel se posait d'ailleurs la question ou vous interpellait déjà hier, est-ce que pour autant nous avons véritablement engager une transformation en profondeur de la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Et c'est en réponse et en résonance avec cette question que je me propose ce matin d'exposer quelques traits marquants des défis que l'enseignement supérieur devra relever à l'avenir, demain, dans un premier temps. Dans un second temps, je vous propose de vous présenter les orientations que le rapport sur la stratégie nationale de l'enseignement supérieur a retenues. Et ces orientations, je crois, convergent finalement toutes vers la nécessité d'une transformation pédagogique vraiment de masse pour l'ensemble de l'enseignement supérieur. Et puis enfin, puisque nous n'y sommes pas encore tout à fait, j'évoquerai quelques freins. Quels sont les freins de cette transformation en profondeur, et puis quels sont les leviers surtout, et comment nous pouvons nous emparer de ces leviers pour l'avenir. Alors, avant d'entrer dans la présentation de ces orientations, je voudrais saluer la présence dans la salle de plusieurs membres du comité Stranes. Nous en aurons aussi, tout à l'heure le plaisir d'écouter certains d'entre eux. Et donc, je voulais vous dire que si la stratégie nationale de l'enseignement supérieur a eu l'écho que vous connaissez, si ce rapport est désormais porté très largement par le gouvernement et par ce ministère, je pense que c'est la méthode que rappelait Marc Guiraud tout à l'heure, de concertation, de dialogue social, d'interaction très large avec l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur, mais aussi l'ensemble des parties prenantes au-delà de cette communauté, qui a permis une appropriation des enjeux et un diagnostic partagé et donc des orientations qui sont désormais en marche. Alors, quels sont les défis pour l'enseignement supérieur, en tout cas ce que nous avons identifié? Premièrement, je crois que nous sommes devant une nouvelle phase, une nouvelle étape de la démocratisation. Les effectifs étudiants augmentent, on l'a vu aux dernières rentrées. L'aspiration à la poursuite d'études des lycéens est aussi plus grande, et d'ailleurs de tous les types de bacheliers. Et dans le même temps, il y a une reproduction sociale qui est toujours très marquée de l'ensemble du système éducatif. Certes, les inégalités sociales se construisent très en amont de l'enseignement supérieur. Pour autant, il me semble que l'enseignement supérieur doit prendre sa part dans la lutte contre ces inégalités. Ces trois tendances nous ont conduit à finalement anticiper et peut-être proposer comme orientation de prévoir une plus grande part de la population qui puisse accéder à l'enseignement supérieur demain. À cet égard, dans cette période compliquée où les effectifs augmentent et où les établissements ont à faire face à ces nouvelles populations, nous pourrions ou certains pourraient être tentés par une forme de malthusianisme. Est-ce que finalement il ne vaudrait pas mieux fermer les portes de l'enseignement supérieur? Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de dévalorisation des diplômes, de moindre insertion professionnelle? Je crois que ça n'est pas du tout le cas. Nos travaux montrent au contraire qu'il y a des besoins réels de qualifications plus grandes pour l'ensemble de la population. Et c'est la deuxième orientation que je voudrais évoquer. L'enseignement supérieur fait face à de nouvelles exigences pour préparer la jeunesse au métier de demain et pour préparer la jeunesse aussi à son avenir et à l'avenir de notre société. Sur le marché du travail, les besoins de qualification effectivement augmentent. Mais dans un sens particulier, parce qu'il y a une fragmentation des parcours professionnels, une disparition de certains métiers, l'apparition de nouveaux métiers. Les métiers de demain, nous ne les connaissons pas tous ou pas encore. Et dans le même temps, c'est une forme de polarisation du marché du travail qui est déjà très présente aux États-Unis, mais qui commence à voir le jour dans les pays européens. Cette évolution du marché du travail, ce besoin de plus grandes qualifications, se place aussi dans un contexte de globalisation, avec une explosion de la population étudiante qui sera en mobilité internationale demain. Cette globalisation, nous devons aussi y préparer nos étudiants. Et puis, pour répondre aux défis sociétaux, aux défis environnementaux, climatiques, technologique, culturel, il faut apporter de nouvelles compétences aux étudiants et à la jeunesse. Donc globalement, ces évolutions, ces tendances montrent que l'enseignement supérieur doit se préparer à élever les qualifications, c'est-à-dire donner un niveau de formation plus élevé à une part plus importante de la population, mais aussi enrichir ces qualifications, développer, faire évoluer ces qualifications. Troisième défi, l'enseignement supérieur fait face à de nouveaux besoins et de nouvelles attentes des étudiants. Les publics étudiants sont plus hétérogènes et nous sommes loin aujourd'hui du public étudiant préservé lorsque, il y a 20 ou 30 ans, seulement 20% de la population accédait au diplôme de bac, au baccalauréat. Nous ne sommes plus du tout dans cette période et le public étudiant a évolué. Ce sont des étudiants digital natives qui sont nés avec le numérique, qui ont de nouveaux modes de socialisation et d'apprentissage, un nouveau rapport au savoir. Et d'ailleurs, le numérique, évidemment, a un impact très fort sur les transformations des modes d'apprentissage et devrait avoir un impact, lui aussi, très fort sur la façon de porter nos enseignements. Alors, nous aurons tout à l'heure, par exemple, l'intervention de François Taddeï, j'imagine qu'il en parlera, de Sophie Penn. Ces défis du numérique dans l'enseignement supérieur sont absolument essentiels. Quatrième élément, l'enseignement supérieur fait face et fera face aussi à une transformation des métiers de l'enseignement supérieur. Nous ressentons parfois dans les universités un malaise de la communauté qui se sent peu armée face au public et à ses évolutions, public étudiant. Il y a un changement de la position de l'enseignant qui est lié au nouveau mode de transmission du savoir. Et je crois que la vision ancienne que nous avons du cours magistral dans un amphi qui n'est pas connecté, c'est une vision qui sera demain dépassée. Mais comment faire pour accompagner cela? C'est évidemment un des enjeux de ces journées que de s'y atteler. Face à ces éléments, la valorisation de l'enseignement dans les carrières des enseignants et des enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur ne me paraît pas être à la hauteur de ces enjeux. Les enseignants-chercheurs sont d'ailleurs peu préparés et à enseigner, mais aussi à travailler en équipe, à travailler avec les documentalistes, les personnels des bibliothèques, les personnels administratifs, à travailler avec les ingénieurs pédagogiques. Et donc, imaginer les nouveaux métiers est une nécessité, je crois, pour l'enseignement supérieur pour demain. Et puis enfin, l'enseignement supérieur fait face à de nouvelles concurrences avec le développement du privé qui doit interpeller l'enseignement supérieur public, mais aussi nouvelles concurrences avec l'enseignement supérieur à distance, l'enseignement supérieur qui se développe sous d'autres formes. Alors face à ces défis, stagner, ce serait reculer, parce que le monde évolue et donc les propositions du rapport Stranes sont précisément de faire face très directement à ces défis et d'engager des orientations qui permettront de les relever. Donc je veux souligner quelques-unes de ces propositions. Premièrement, engager l'ensemble de l'enseignement supérieur dans une politique affirmée de développement de la formation continue en lien avec l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi de la société civile. Nous sommes, je crois, devant un nouveau paradigme, peut-être, de la professionnalisation. Beaucoup a été fait avec les stages, avec la place des professionnels dans les enseignements, mais nous avons désormais à donner aux jeunes et aussi aux adultes en reprise d'études ou en formation tout au long de la vie, nous avons à leur donner des compétences transversales, transférables et qui leur permettront d'évoluer au cours de leur parcours professionnel. Et pour cela, la mise en avant de ces compétences dans toutes les formations exigera une évolution, y compris sur le plan de la pédagogie. Deuxième orientation, la politique d'internationalisation de notre enseignement supérieur ne peut pas se se limiter à une meilleure visibilité dans les classements internationaux. Nous avons à préparer nos étudiants à cette globalisation, d'abord par les langues, par l'enseignement des langues, qui est extrêmement important à cet égard, mais aussi en favorisant la mobilité sortante et en l'accompagnant. Et pour cela, encore, notre pédagogie aussi doit évoluer et la façon dont nous portons cela dans les établissements d'enseignement supérieur. Troisième orientation importante, c'est celle de la mobilité sociale. Je l'évoquais tout à l'heure, l'enseignement supérieur doit prendre sa part dans la réduction des inégalités sociales. Le rapport Stranas a proposé de diviser par deux les écarts sociaux de diplomation. Et les leviers pour lutter contre ces inégalités sociales, c'est de travailler sur l'orientation, sur les parcours d'orientation, sur les voies d'accès à l'enseignement supérieur, sur les liens avec les lycées, et puis aussi sur les passerelles entre les différents types de formation. Une exigence est extrêmement importante dans les formations elles-mêmes vis-à-vis des étudiants, parce qu'on ne peut pas être équitable avec des formations qui seraient des formations au rabais. Donc les formations doivent être extrêmement exigeantes. Quatrième orientation, rendre les étudiants acteurs de leur formation, parce que c'est un levier de leur réussite et cela les prépare à être à la fois des citoyens et des professionnels libres et responsables. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, je crois, sont ici présents au JPES. Alors, vous le voyez, ces orientations, ces grandes orientations, au fond, elles conduisent toutes à mettre l'accent sur la nécessité d'une transformation pédagogique. Et en préparant cette intervention à la demande de Claude Bertrand, je me suis demandé si j'allais axer sur la présentation du chapitre du rapport Stranas qui est consacré à ça. C'est chapitre 4. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est l'ensemble de nos propositions et de nos orientations qui conduisaient à mettre en avant la nécessité de cette transformation pédagogique. C'est une nécessité aussi parce qu'elle est demandée par les organisations étudiantes. Nous avons trouvé dans nos travaux extrêmement marquant que toutes les organisations étudiantes aujourd'hui demandent une évolution de la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Alors, elle est nécessaire, mais comment faire ? Et quels sont les freins ? Les freins, ils ont été sans doute évoqués hier et je veux quand même en rappeler quelques-uns. Les innovateurs sont peu reconnus. Ils le sont plus désormais avec les PEPS et les JPES. Mais ils ne sont pas toujours soutenus à la hauteur de leur engagement. La mission d'enseignement, je crois, mérite véritablement d'être mieux positionnée à la fois dans les activités des enseignants, des enseignants-chercheurs, mais aussi plus largement d'ailleurs des personnels des établissements d'enseignement supérieur, et puis aussi tout au long de la carrière. Nous le savons bien, la carrière des enseignants-chercheurs est quand même principalement fondée sur leur investissement en recherche et puis aussi sur leur investissement dans leur discipline, ce qui est un des autres freins, par exemple, du développement de la pluridisciplinarité. La mesure de l'activité des enseignants-chercheurs en cours magistraux, TD, TP, est-ce qu'elle est toujours adaptée face aux enjeux de la transformation pédagogique ? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a des freins aussi du côté des locaux qui évoluent et qui devront évoluer pour prendre en compte de nouvelles formes d'enseignement, de pédagogie active, de pédagogie assise sur le numérique et utilisant les potentialités du numérique. Et puis enfin, il y a un frein du côté du portage politique. Les établissements qui ont mis ça en avant, évidemment, font évoluer pas seulement quelques-uns des enseignements, mais de manière plus globale, leur pédagogie, et on voit bien que c'est un des leviers extrêmement importants. Alors, les leviers, précisément, il y a des leviers du côté, premièrement, des moyens et des incitations à mettre en place. À cet égard, les appels à projets du programme Investissement d'Avenir, avec les IDFI, numériques, constituent des incitations. La reconnaissance aussi extrêmement forte et le partage des pratiques qui est permis par ces journées au niveau national, mais qui pourrait se déployer dans les établissements et dans chacune des régions. Ce sont aussi des incitations à développer une transformation pédagogique qui fasse système et qui concerne pas seulement quelques innovateurs, quelques pionniers, mais l'ensemble de l'organisation des établissements. La mise en place aussi d'équipes pédagogiques véritablement qui soient responsabilisées, qui associent plusieurs métiers, qui permettent à des enseignants et des enseignants-chercheurs de travailler avec des personnels administratifs, avec des personnels de documentation, avec des ingénieurs pédagogiques, cela serait un levier de transformation plus fondamental au sein des établissements. Deuxième levier, c'est la question de la reconnaissance de la mission d'enseignement pour les enseignants-chercheurs en particulier. Il me semble que aller vers plus de forfaitisation de l'activité d'enseignement, plus que du morcellement, serait souhaitable. Il faut former aussi les enseignants-chercheurs, les former en amont de leur fonction, mais aussi tout au long de leur vie. Cette formation, elle se développe, mais elle devrait sans doute être généralisée. Responsabiliser les enseignants-chercheurs, non seulement de leur enseignement, mais aussi des cohortes d'étudiants qu'ils accompagnent et qu'ils doivent conduire à la réussite. Favoriser la pluridisciplinarité et étudier de quelle manière la façon dont actuellement les carrières des enseignants-chercheurs sont peut-être bridées à cet égard. Et puis, d'une certaine manière, tout cela conduirait à faire plus confiance, en fait, aux enseignants-chercheurs et à valoriser le mentorat qui était bien à l'origine de la mission des universitaires, qui est d'accompagner des jeunes pour acquérir des savoirs et des compétences. Et tout cela, je pense, redonnerait du sens à la mission d'enseignement des enseignants-chercheurs. Alors, pour terminer, le troisième levier qui est de permettre de placer la transformation pédagogique au cœur du projet de toute une institution, de toute une université ou de toute une école, eh bien, je crois que ça doit être porté avec une parole politique très forte, qui associe les étudiants et les enseignants. Et pour illustrer cela, je voudrais évoquer l'université de Roskilde que nous avons visitée au Danemark, qui est une université, certes, de taille moyenne, avec 8000 étudiants, de sciences humaines et sociales, mais où toutes les formations sont des formations pluridisciplinaires, qui associent les SHS et des technologies ou des sciences dures ou des sciences de la vie, où toutes les formations sont délivrées pour moitié des crédits de chaque semestre sous forme de pédagogie par projet et de pédagogie active, et je dis bien toutes les formations à chaque semestre. Est-ce que cette université de Roskilde, qui est assez exemplaire hein, du point de vue de la transformation pédagogique, est-ce qu'elle restera un exemple étranger ou est-ce que nous sommes capables de le faire dans nos établissements en France? Je crois que la réponse, c'est oui, mais évidemment, il faut réunir l'ensemble des leviers précédents. Voilà, merci.
Nous avons peu de temps pour quelques questions. On pourrait vous demander si l'université danoise, c'est 50% des crédits qui sont dans le rapport proposition 16, je crois. Vous dites prévoir systématiquement la délivrance de 25% des ECTS dans le cadre d'une pédagogie active. Bon, non, c'était juste pour vous montrer que, enfin, pour vous rappeler ou pour vous inciter à revenir au rapport, parce que le chapitre 4, effectivement, contient énormément, c'est une mine de propositions, d'actions. hyper concrète de transformation de l'enseignement supérieur à travers la pédagogie. Question ?
Bonjour, Patrick Bourgin, Agence nationale de la recherche. J'avais une question. Que pensez-vous des IDEFI, du rôle des IDEFI dans les évolutions actuelles de l'enseignement supérieur en matière notamment d'innovation pédagogique ?
Je pense que c'était une démarche tout à fait nécessaire au moment où elle a été lancée, évidemment. Elle a permis vraiment de mettre en place soit des nouveaux types de formation, soit de mettre l'accent sur la nécessité de porter de nouvelles compétences dans l'enseignement supérieur. J'ai quelques exemples en tête, ils se reconnaîtront. Mais cette démarche-là a un effet incitatif, un effet démonstratif aussi. La question qui est devant nous, c'est comment essaimer, comment généraliser, comment faire système. Et c'est cette question-là, en fait, hein, qui s'adresse à nous, à l'ensemble de l'enseignement supérieur. Donc les IDEFI ont, à mon sens, été absolument nécessaires et sans doute qu'il faut continuer pour avancer, mais il faut lier ça à la politique des établissements véritablement portée plus largement, et c'est ce que fait la DGCIP au fond, hein, en mettant en avant la nécessité d'une transformation pédagogique. Donc les deux doivent avancer désormais ensemble.
Oui, bonjour, Pierre Billet, donc directeur de l'École nationale de l'enseignement professionnel supérieur, label IDEFI 2012. Que pensez-vous de l'habilitation à diriger de la pédagogie ? Parce que chacun de nous a toujours des mots, mais je pense que un jour, il va falloir agir. Merci.
Oui, c'est une proposition qui a été étudiée par le comité Stranes et que nous n'avons pas retenue, qu'on a discuté hein, très sincèrement avec l'ensemble des membres du comité. Et si nous ne l'avons pas retenu, c'est parce que nous avons pensé que la nécessité de la formation des enseignants-chercheurs s'adressait à tout le monde. Et que c'est pas seulement à ceux qui passeraient une habilitation à diriger la formation. Je reste concise aussi dans mes réponses.
Je vous en remercie, Madame la Récrice. Une dernière question, si vous voulez bien,
bien sûr,
y répondre. Monsieur Cré.
Bonjour. Pour rebondir sur cette question et travailler peut-être plus en amont, alors à défaut, dans l'atelier sur transformation pédagogique, quelle politique d'établissement mettre en œuvre, une des questions qui est ressortie, c'est y a-t-il possibilité de faire évoluer également les critères d'attribution d'un doctorat et de mettre en avant dans la formation doctorale qui finalement alimente l'enseignement supérieur et la recherche des dimensions complémentaires à celles de l'activité de recherche pour faire évoluer les individus.
Très, très synthétique, oui. Non, oui, oui, je peux compléter un tout petit peu pour dire que certains d'entre vous, d'entre nous, ont eu l'expérience de formation pendant le doctorat hein, qui était donné à travers, alors, je ne sais plus comment on appelait ça, les CIES. Les 119, les 100, enfin bon, je ne sais plus ce que voulait dire le sigle, on est très bon pour les sigles dans notre système éducatif. En tout cas, cette expérience-là, si elle n'a pas réussi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la reprendre, et que ça ne veut pas dire non plus que ces succès ne doivent pas être mis en avant, parce qu'il y avait aussi des choses très positives. Et la nécessité de la formation et de la formation à la recherche, elle est déjà constitutif du doctorat, mais la nécessité de la formation à l'enseignement en parallèle et pour en tout cas l'ensemble des membres du comité, on a vraiment mis ça en avant. Tout à fait.
Je vous remercie, Madame la Rectrice. Merci beaucoup.